Salut, c'est La Poulie, votre revue de presse hebdomadaire sur la radio primitive. Alors, en ce lundi matin, on va parler d'abord de la police contre les écologistes avec un article de contre-attaque. Et ensuite, je vous parlerai d'une entreprise qui va contribuer à un projet de mine de lithium dans l'Allier. Et voilà, donc je vous dirai un peu qui est Imerys. Voilà, et puis on va commencer par un petit agenda.
Allô, Hervé ? Ah, allô, allô ?
Qu'est-ce que cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Alors, je vais vous parler du programme des rencontres, enfin des rencontres antinucléaires à Bure, donc du 17 au 23 avril. Donc ça commence après-demain, hein, 17 avril. Et donc voilà, donc autour de Bure, le programme est disponible sur burburbure.info. Voilà, rien de plus. Donc des rencontres printanières antinucléaires et anti-autoritaires. Et voilà, avec des assemblées plénières, des ateliers, des promenades, tables de presse, etc. Y a un appel aussi à dons pour de matériel pour un lieu justement à Bure. Voilà. Donc ce lieu s'appelle La Gare. Et donc vous pouvez aller voir, toujours pareil sur Bure Bure Bure, il y a un appel à dons de matériel notamment. Voilà, ensuite, Festival Intersquat en banlieue parisienne contre les expulsions, du 27 avril au 5 mai. Voilà, et ben, je vous conseille d'y aller, hein. C'est dans le 93. Voilà, et puis ensuite, donc je vous l'annonce longtemps à l'avance, mais le 18 mai, il y aura un concert organisé par Radio Primitive avec le Temps des Cerises, et ça se passera au Temps des Cerises. Et voilà, alors la programmation, je ne l'ai pas tout de suite, et je vous la transmettrai plus tard. Voilà, et tout de suite, on va s'écouter un peu de musique.
Cause your mouth's full of shit. Do something about it. Can't eat cause your mouth's full of shit. Can't eat cause your mouth's full of shit. Do something about it.
You think your God's gift
Alors, on s'est écouté Mouthful of Shit de Chumba Wamba. Et alors, je reviens sur la programmation du concert de Radio Primitive au temps des cerises. Donc, ce sera 4 feuilles. Ça, c'est du punk acoustique de Montreuil. Patrick Cabré, du rock afro-jazz du Burkina Faso. Bon Dimanche, c'est du post 3 petits points qui vient de Reims. Et Berlin, du ghost rock de Lille. Voilà, il y aura aussi présent sur site le label disquaire Bruit Sourd avec tous leurs vinyles, donc vous pourrez acheter de la musique. Et puis il y aura les DJ sets primitifs, donc là des mix endiablés par des bénévoles primitifs. Voilà. Et voilà, donc entrée prix libre. Et puis on apprécie, si jamais vous venez à ce concert, que vous adhériez à la Radio Primitive qui vous fournit de si belles émissions. Et aussi de si beaux événements. Voilà. On fait appel à vous parce que la radio, c'est vous qui la faites. Hein. Si vous voulez faire une émission, n'hésitez pas. Venez rencontrer l'équipe de la radio et puis adhérer. Et pourquoi pas devenir un animateur vedette. Allez, on s'écoute un peu de musique. Écouter Two Faced Planet par Bib. Voilà, un article de contre-attaque sur contre-attaque.net. Police contre écologiste, qui terrorise qui ? Le communiqué de presse du comité de soutien aux interpellés du 8 avril. Ce lundi 8 avril, au petit matin, 17 personnes ont été perquisitionnées puis interpellées, parfois de manière très violente, à Rouen, en Normandie et en région parisienne. Après plus de 60 heures de garde à vue, elles ont finalement été libérées entre le mercredi 10 et le jeudi 11 avril. La procédure policière visait le surgissement, le 10 décembre 2023, d'une centaine de militants et militantes écologistes sur une centrale à béton Lafarge, à Val-de-Reuil, dans l'Eure. À l'occasion des journées d'action face au béton, appelées par plus de 200 organisations partout en France et en Europe, suite à cette opération de répression massive, 9 personnes comparaîtront en juin devant un tribunal dont 5 soumises à un contrôle judiciaire, avec les chefs d'accusation suivants, association de malfaiteurs, dégradation et séquestration. 8 personnes ont également été libérées avec un classement sans suite, soit près de la moitié des arrestations. Preuve s'il en fallait de la faiblesse des accusations portées, en comparaison avec la brutalité de la procédure. Brutalité aveugle, comme en témoignent les erreurs d'adresse de la BRI qui a traumatisé au moins 2 familles dans la matinée du 8 avril. Le nombre significatif de classements sans suite dès la fin de la garde à vue atteste de la faiblesse de l'enquête et des preuves recueillies. Il est très inquiétant que des personnes aient pu être soumises à des interpellations spectaculaires menées par la BRI, des perquisitions de leur domicile et des gardes à vue de 3 jours à la sous-direction antiterroriste, sur cette seule base, considère Maître Chloé Chalot, l'une des avocates des interpellés. Toute cette affaire illustre encore la tendance à confier des services d'enquêtes surqualifiées, ce qui relève de l'action politique, dans une fuite en avant de plus en plus injustifiable. Les moyens de l'antiterrorisme ont une nouvelle fois été déployés pour criminaliser des activistes écologistes, alors même que toute la procédure se situe sous le régime du droit commun depuis le début. Ce régime d'exception semble devenir la norme pour un gouvernement prêt à toutes les dépenses répressives. Pendant que nous attendions jeudi la libération des personnes retenues au tribunal de Évreux, encadrées par une présence policière démesurée, le gouvernement annonçait une dérogation à la loi zéro artificialisation nette pour 424 projets industriels et logistiques, livrant ainsi 12 000 hectares au béton, témoignent des membres du comité de soutien aux 17 interpellés du 8 avril. La stratégie de la terreur que voudrait imposer une police au service des intérêts des bétonneurs ne nous fera pas oublier que la France a été condamnée pour inaction climatique et que la multinationale Lafarge est mise en examen pour crimes contre l'humanité. On voudrait nous terroriser par ces procédures, mais ce qui est terrifiant, c'est l'incurie et le cynisme d'une classe politique complètement aveugle à l'urgence et soumise aux intérêts privés. Une classe politique prête à instrumentaliser la répression policière. La lecture de l'audition du vigile prétendument séquestré permet d'apprendre qu'il est resté 15 minutes de plus dans le réfectoire suite à sa pause déjeuner en raison de la présence des militants sur site. Il a ensuite pu sortir de la pièce librement. Cette description est assez éloignée de l'image de la séquestration qui a été répandue dans les médias pour construire l'image de dangereux et violents activistes, détaille maître Chloé Chalot. Le ministre de l'Intérieur, qui il y a un an envoyait ses quads et ses grenades sur les manifestants et manifestantes à Sainte-Soline, avec la volonté de mutiler et blesser, voudrait faire passer les opposants et opposantes politiques pour des criminels. Mais la violence se trouve à côté des attaques. La violence se trouve du côté des attaques incessantes de l'État, qui détruit et déroge à toutes les mesures de protection de la santé et de la biodiversité, saccage les terres agricoles et naturelles en imposant partout des projets d'infrastructures logistiques et industrielles, casse méthodiquement les acquis sociaux et persiste à soutenir des dizaines de projets routiers du siècle dernier pour alimenter la machine productiviste. Malgré la violence et l'ampleur des moyens de surveillance et de répression employés pour faire plier les contestations, l'évidence semble de plus en plus partagée et les actions visant un modèle de production dont la sortie doit être accélérée se multiplient et se propagent partout avec vitalité. Poursuivent les membres du comité de soutien aux 17 interpellés. Le comité convie à un rassemblement le 27 juin devant le tribunal d'Évreux pour soutenir les personnes en procès et invite à partager et à participer et à partager la cagnotte de solidarité mise en place. Voilà, donc encore une fois, la police qui défonce des portes, réveille des gens à 6h du matin, quitte à se tromper d'adresse, voilà, pour des gens qui ont... pour des activistes écologiques, quoi. Voilà, bon, allez, un petit peu de musique.
Water is running down my kitchen sink and I don't wanna live forever.
Alors, on s'est écouté Black Air de Kuken. Alors, tout de suite, on va parler d'un projet de mine dans l'Allier, de mine de lithium. Voilà. Donc, c'est une mine qui... un projet de mine de lithium basé Émilie. Et voilà... C'est proposé par l'entreprise Imerys, dont on va détailler le qui elle est. Et l'entreprise prévoit un investissement d'environ 1 milliard d'euros et l'extraction permettrait la production de 700 000 batteries de voitures électriques par an. Bon, alors voilà, ça c'est le projet et qui est soutenu par l'État français. Mais tout de suite, on se penche sur qui est Imerys. Donc c'est issu d'une brochure qui s'appelle « Contre le projet de mine de lithium dans l'Allier ». Voilà, une brochure pratique sur le groupe Imerys. Alors, l'entreprise est fondée en 1880, lorsque la famille Rothschild combine plusieurs intérêts miniers au sein de la société Peñarroya. Pendant près d'un siècle, elle se spécialise dans l'extraction et la transformation de métaux, dont le nickel devenant ainsi un des principaux acteurs mondiaux de l'extraction minière, opérant jusque-là comme une entreprise indépendante. Peñarroya se diversifie en 1970 et fusionne avec la société Le Nickel, aujourd'hui Eramet, qui a notamment fait fortune en exploitant les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, et Mokta, une des sociétés métallurgiques françaises les plus anciennes qui s'est enrichie grâce aux mines de fer en Algérie, formant ainsi une nouvelle holding appelée iMetal. Après le rachat en 1999 de la English China Clays par iMetal, iMetal devient Imerys. Les milliards de la multinationale proviennent ainsi en grande partie de la colonisation française en Afrique et en Océanie. Imerys poursuit aujourd'hui sur cette lancée impérialiste par ses activités au Brésil, en Inde, en Chine, en Turquie, en Afrique du Sud, au Canada, au total dans 41 pays. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 4,4 milliards d'euros en 2021 et elle compte 16 300 employés et 115 sites miniers. En France, ce sont 32 sites industriels de l'entreprise et environ 2000 travailleuses, sans compter les filiales et les sous-traitants. Depuis 2015, Imerys fait partie des entreprises fondatrices du Centre Hydrocarbures Non Conventionnels, c'est-à-dire un lobby cherchant à promouvoir l'exploitation du gaz de schiste. Depuis 2015, Imerys exploite des mines en Afghanistan et a ouvert des usines au Pakistan. Une enquête révèle d'une part les conditions de travail catastrophiques des ouvriers et des ouvrières. Pas de protection, pas de gants, pas de soins, un salaire de 4,50€ la journée de 10-12 heures de travail. Et la création d'une chaîne d'approvisionnement en talc qui finance directement les talibans afghans. Après la mise en cause de Lafarge pour avoir poursuivi ses activités en Syrie malgré la guerre civile et la proximité de Daesh, c'est à l'époque la seconde firme française qui se trouve mise en cause pour ses investissements douteux. De nouveau, la famille Frère joue un jeu trouble. Elle qui fait partie de l'actionnariat majoritaire à la fois du groupe Lafarge et du groupe Imerys. Autre scandale au Brésil, cette fois, où Imerys est accusé par des communautés autochtones de polluer les cours d'eau d'Amazonie via ses mines de kaolin. Des eaux usées issues de l'extraction et de la transformation du kaolin se sont déversées dans les cours d'eau locaux, qui sont devenus tout blancs et impropres à tout usage pour des milliers de personnes. Imerys n'a reconnu qu'une seule fuite d'eau usée, de faible ampleur. Les riverains et riveraines et les autorités judiciaires évoquent au moins 6 déversements de substances toxiques, survenus entre le 6 et le 19 mai 2014. Pour les riverains, ces incidents n'avaient rien d'inédit. L'un d'eux, interrogé par la presse, déclare que les gens ici savent ce que lorsqu'arrive mai ou juin, il y a un déversement de rejets miniers dans l'eau. L'impact est généralisé sur l'agriculture, la pêche, le poisson, qui est notre plus grande richesse, et est contaminé. Des cas de diarrhée, de vomissements ou d'irritation de la peau liés au contact de l'eau sont régulièrement constatés. Le ministère public fédéral et de l'État du Pará ont initié des procédures contre Imerys. L'entreprise a même été condamnée à payer des millions de réals de compensation et à réaliser des travaux d'assainissement. Mais l'entreprise n'a rien fait, n'a rien payé. Imerys prétend avoir acheté la terre où ces gens vivent depuis des décennies, en profitant d'irrégularités dans l'accès à la terre et à la propriété foncière, et refuse dès lors de verser une compensation. La communauté est cernée par les usines industrielles, d'une part, et par un barrage de rejets miniers, d'autre part, d'Imerys. Partout où elle s'est implantée, la multinationale amène ravages écologiques et sociaux, destruction de zones naturelles, pollution de l'eau et des sols, corruption, violence et pression, exploitation et mauvais traitement. Pour l'empêcher de nuire, il paraît alors primordial de l'attaquer là où elle se trouve et là où elle aimerait s'implanter. Alors voilà, ensuite on va regarder un peu l'actionnariat du groupe Imerys. Voilà, alors l'actionnariat est dominé par deux riches familles via leur holding. D'abord la famille Frère, via la société Frère Bourgeois, basée en Belgique et fondée par le baron milliardaire Albert Frère, qui détient notamment le château Cheval Blanc, un grand cru de Saint-Émilion, en partenariat avec Bernard Arnault. Les deux principales holdings de la famille Frère Bourgeois sont le groupe Bruxelles-Lambert, GBL, et la CNP. Le groupe Bruxelles-Lambert détient 54,6% de participation au capital d'Imerys au 31 décembre 2022 et 68% de participation en droit de vote au conseil d'administration d'Imerys à la même date. La holding GBL est dirigée par Paul Desmarais Junior et Yann Gallienne. Voilà, Ségolène Frère Gallienne, Paul Desmarais III et Cédric Frère. Le reste de l'actionnariat du groupe Imerys est principalement détenu par les holdings de la famille Desmarais. L'Empire Desmarais a été fondé par Paul Desmarais, aujourd'hui décédé, fut l'un des hommes les plus riches du Canada. Ces deux familles, Frères et Desmarais, détiennent les participations dans d'autres grands groupes, le cimentier Lafarge, Adidas, Pernod Ricard ou encore Total. Voilà. Et alors, après les actionnaires, il y a aussi tous les dirigeants, donc le conseil d'administration et comité exécutif. Et alors là, on retrouve quelqu'un dont on a déjà entendu parler, qui est Patrick Cron, voilà, qui est président du conseil d'administration d'Imerys depuis juin 2019. Et voilà, c'est l'ancien PDG d'Alstom. Et voilà, les conditions auxquelles il vend des éléments du groupe Alstom au groupe américain General Electric et les primes et revenus personnels qu'il en retire sont l'objet de controverses importantes dans la presse. Il touche à ce moment une retraite chapeau et une prime de 10 millions d'euros plus 4 millions d'euros. Voilà, donc Patrick Cron, c'est quelqu'un qui avait été arrêté aux États-Unis, je crois, pour des faits de corruption. Puis bon, il a été relâché depuis, mais voilà. Donc, voilà. Et ben, on va s'écouter un petit peu de musique. Perfectly clear. s'écouter Worthless VS Self, et voilà, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et à la semaine prochaine.